السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، en cette journée du 18 Dhul-Qi'da 1446 de l'égir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, correspondant au jeudi 15 mai 2025, nous poursuivons la méditation de la spiritualité du pèlerinage et de son lien étroit avec la vie et la réforme des âmes et des cœurs. Nous avons parlé hier de l'importance de la Kaaba, de ce qu'elle représente et de l'effet qu'elle produit dans le cœur du croyant, ainsi que du tawaf, puis le maqam Ibrahim et les deux raka'a que l'on accomplit après. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, nous poursuivons dans les rites et nous allons parler de as-sa'yu bayna as-safa wal-marwa, les va-et-vient que le pèlerin est amené à faire entre les deux monts qui sont appelés as-safa ainsi que al-marwa. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Inna as-safa wal-marwata min sha'airillah faman hajja al-baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawwafa bihima wa man tatawwa'a khayran fa inna Allah shakirun alim » Dans le sens rapproché de ce verset, certes, as-safa et al-marwa font vraiment partie des emblèmes d'Allah. Donc, quiconque fait le pèlerinage à la maison ou fait la umra, il n'y a pas de mal pour lui à ce qu'il fasse les va-et-vient entre ces deux monts. Ce verset a été révélé après que les compagnons se soient posé la question « Nous est-il permis, devons-nous faire les va-et-vient dans nos rites du pèlerinage entre As-Safa et Al-Marwa ?» Étant donné que les gens de la période pré-islamique le faisaient, est-ce que c'est un mal pour nous de le faire? Allah subhanahu wa ta'ala leur envoya la réponse par la révélation, dans laquelle il leur dit que le mont As-Safa et Al-Marwa font partie des emblèmes, des signes indiquant la législation et religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que quiconque qui accomplit le pèlerinage ou la umra peut faire les va-et-vient, même doit faire les va-et-vient entre Safa et Marwa. Et le Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Si'di rahimahullah ta'ala a dit « Yukhbiru ta'ala anna Safa wal Marwa wa huma ma'rufani min sha'airillah ay a'lamihi a'lami dinihi al-zahira allati ta'abbad Allahu biha ibadah wa idha kana min sha'airillah فقد أمر الله بتعظيم شعائره فقال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فدل مجموع النصين أنهما من شعائر الله وأن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. الله سبحانه وتعالى informe que الصفا والمروة sont parmi les emblèmes d'Allah, c'est-à-dire parmi les marques manifestes de sa religion par lesquelles il a ordonné à ses serviteurs de l'adorer. Et puisqu'il s'agit des rites, des emblèmes d'Allah, Allah a ordonné de les vénérer, comme il a dit dans le sens de l'autre verset, et quiconque vénère les emblèmes d'Allah, cela relève en vérité de la piété des cœurs. Ainsi, l'ensemble de ces deux textes montre que As-Safa et Al-Marwa font partie des emblèmes d'Allah et que le fait de vénérer les rites d'Allah est une manifestation de la piété des cœurs. Étant donné que As-Safa et Al-Marwa font partie des emblèmes immenses d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui accomplit les va-et-vient pendant son pèlerinage entre ces deux monts doit ressentir plusieurs choses dans son cœur. Premièrement, que c'est une adoration à travers laquelle nous imitons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que cela fait partie des rites du pèlerinage de notre père Ibrahim, alayhi salam, confirmé par la suite par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et que ce qui est voulu lorsque l'on fait les va-et-vient entre As-Safa et Al-Marwa, ce n'est pas simplement de courir, mais plutôt d'appliquer un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de le vivre. Le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahimahullah ta'ala a dit: il est recommandé pour celui qui accomplit les rites de se rendre compte, c'est-à-dire pendant qu'il fait les va-et-vient entre Safa et Marwa, de Hajar, de se rappeler de Hajar et de sa situation, l'épouse du prophète Ibrahim alayhi salam, qui courait justement entre ces deux monts à la recherche de la subsistance dont avait tant besoin son fils en bas âge, Ismaïl alayhi salam. Et cela est plus à même de faire susciter en la personne l'humilité et la concentration pendant les rites. Il ne s'agit pas d'un jeu, d'une course, un endroit où on est là à marcher, à faire des allers-retours et à voir qui court le plus vite. Loin de là, il y a une signification derrière. C'est une soumission à Allah Azza wa Jal et un rappel de Hajar qui était là à courir justement. Toi, lorsque tu cours, tu le fais en tant que rite de la Amra et du pèlerinage, mais elle, quand elle courait à la recherche de la nourriture dont son fils avait besoin pour continuer à vivre. Deuxièmement, parmi ce que les va-et-vient entre Safa et Marwa doivent te procurer dans le cœur, celui qui court entre As-Safa et Al-Marwa doit se rappeler de son père Ibrahim, alayhi salam, et le prendre pour modèle, pour exemple, dans la soumission aux ordres d'Allah Azza wa Jal. Parce que c'est Ibrahim alayhi salam qui a laissé son épouse Hajar et son fils en bas âge Ismaïl alayhi salam à l'endroit désertique où il allait plus tard bâtir la Kaaba. Et c'est là-bas que lorsqu'il s'en est allé, il a été interpellé par son épouse à plusieurs reprises qui lui a demandé: pourquoi est-ce que tu nous abandonnes ici alors qu'il n'y a ni provision ni nourriture? S'en allant, il ne se retournait même pas, alayhi salam, tellement il était soumis à Allah Azza wa Jal. Elle lui demanda alors: est-ce Allah qui t'ordonne de nous laisser ici? À ce moment-là seulement, il se retourna vers elle et lui répondit: oui, c'est Allah qui m'ordonne de vous laisser ici. Elle lui dit alors: tu peux t'en aller. Si c'est Allah qui t'ordonne de nous laisser ici, Allah ne nous perdra pas. Il s'en alla, et c'est là que Hajar se mit à courir entre Safa et Marwa, parce que Ismaïl commençait à avoir faim et soif, et il n'avait que un peu de dattes et un peu d'eau, et leur provision s'était épuisée. Hajar s'est mis à courir à la recherche d'aide, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal lui envoya Jibril alayhi salam, qui frappa le sol duquel jaillit l'eau de Zamzam. Lorsqu'elle vit l'eau sortir à toute vitesse, elle s'exclama: Zam, Zam, ce qui veut dire reste, reste. Et c'est là que l'eau est restée. Et jusqu'à ce jour, les musulmans boivent de cette eau, qui n'est que le fruit d'une soumission. Ainsi est le résultat de la soumission. Lorsque tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala, tu gagnes en subsistance, mais pas seulement, tu fais aussi gagner les autres en subsistance. Une femme, seule, avec un enfant en bas âge, laissée sur place dans une terre désertique par un homme à l'âge avancé, une soumission à Allah azza wa jal, par laquelle nous buvons jusqu'à aujourd'hui l'eau de Zamzam, qui est juste à côté de moi, d'ailleurs, au moment où je vous parle. Allahu Akbar. Vous la récupérez dans des bouteilles, vous la mettez au frigidaire, au réfrigérateur, vous la buvez, vous l'offrez à vos proches lorsque vous revenez du Hajj, sans vous rappeler peut-être qu'il s'agit là d'un signe de soumission à Allah dont il faut se rappeler quand on fait les va-et-vient entre Safa et Al-Marwa. Troisième chose que l'on peut conclure ou déduire des va-et-vient entre Safa et Al-Marwa, c'est le musulman doit se rappeler l'importance de la confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et cela, on le voit à travers la réaction de Hajar. Tout d'abord, lorsque son mari l'a laissé dans cette terre désertique, en lui informant que c'est un ordre d'Allah, et aussi lorsqu'elle se mit à courir à la recherche de subsistance pour son fils, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal lui apporte la délivrance. Il y a dans cela une manifestation claire de la confiance qu'ils avaient en Allah Azza wa Jal, car celui qui place sa confiance en Allah Azza wa Jal, Allah sera satisfait de lui. Il se fera alors une bonne opinion d'Allah, et Allah ne le perdra pas, comme a dit Hajar, pleine de confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, celui qui court et qui fait les va-et-vient entre As-Safa et Al-Marwa se rappelle de cette femme, de Hajar, qui a fait les causes pour s'en sortir. Elle n'est pas restée assise à dire j'attends peut-être que de la subsistance va me parvenir. Non, elle a fait les causes. Et c'est en faisant les causes qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a apporté l'eau de Zamzam. De même, lorsque tu veux obtenir quelque chose, dissiper un mal, t'en sortir après une calamité, il faut t'en remettre à Allah tout en cherchant à faire toute cause licite possible pour te sortir de la calamité auquel tu fais face. Ainsi, l'on voit l'importance des va-et-vient entre Safa et Marwa, et le musulman qui accomplit le tawaf ou qui accomplit les va-et-vient entre Safa et Marwa doit essayer de se rappeler de tout cela, et qu'il ne s'agit pas d'un jeu, d'une course, ni d'un amusement, mais plutôt d'une énorme adoration, à travers laquelle il se rappelle que des gens l'ont devancé dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, des gens au cœur pur, à l'âme bonne, qui ont été au final agréés par leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et là, on a fini avec les rites de la Umrah. Nous allons maintenant aborder les sagesses, les leçons profondes à tirer des rites du Hajj, du pèlerinage en lui-même. Le pèlerinage commence dans la journée du 8 du mois Dhul-Hijjah. Ce jour-là est appelé Yawm al-Tarwiya, le jour de l'abreuvement. Pourquoi est-ce qu'il est appelé ainsi? Les gens de Quraysh qui allaient accomplir le pèlerinage et qui étaient sur le point de se rendre à Arafat ainsi que Muzdalifah s'approvisionnaient en eau afin d'avoir une quantité suffisante pour pouvoir s'abreuver le jour de Arafat et le jour de Al-Muzdalifah, ou le jour du Eid plutôt, et la nuit de Al-Muzdalifah. On a donc appelé ce jour le jour de la préparation quand on s'approvisionne en eau, d'où le nom Yawm al-Tarwiya. Et c'est le premier jour du pèlerinage, qui concorde avec le 8 du mois de Dhul-Hijjah. Et ce jour-là, en réalité, ce que le pèlerin doit faire est recommandé, fait partie de la sunna. Il ne s'agit pas d'une obligation ni d'un pilier, mais cette action garde toute son importance puisqu'elle sert à se préparer à la journée qui suit, qui est la journée de Arafat. Donc, ce n'est pas à négliger. Il y a beaucoup de gens qui, pendant le pèlerinage, commencent les rites le jour de Arafat et négligent le jour de Tarwiya, prétextant qu'il ne s'agit pas d'une obligation. Certes, ce n'est pas une obligation, dans le sens où, si tu ne la fais pas, tu n'es pas blâmable et tu n'as pas de péché. Cependant, tu perds en hasanat et tu perds en préparation. Quelqu'un qui est allé à Mina le jour de Tarwiya et qui a passé la journée là-bas comme cela doit se faire dans les rites du pèlerinage, ainsi que la nuit, afin de se rendre le lendemain, après le lever du soleil, à Arafat, nul doute qu'il sera prédisposé à invoquer Allah le lendemain, à le solliciter, à le supplier. Il sera donc dans un état de foi, de proximité avec Allah, différent de celui qui commence directement par le jour de Arafat et qui est dans ses habitudes quotidiennes, puis il s'en va et va à Arafat. C'est différent. Celui qui se prépare le jour de Tarwiya en allant à Mina, il se détache de ce bas monde et de ses occupations ainsi que ses distractions pour commencer à purifier son cœur doucement, doucement, jusqu'à se lever le lendemain avec un cœur prêt à ce grand jour, le jour de Arafat. Il y a donc des leçons à tirer du jour de Tarwiya. Premièrement, il est recommandé, comme nous l'avons dit, pour celui qui accomplit le Hajj avec la méthode appelée Tamattu', d'aller à Mina le jour de Arafat, pardon, le jour de Tarwiya, le huitième jour de Dhul-Hijjah, après le lever du soleil. Il entrera en état d'ihram, il portera le vêtement de sacralisation et il se rendra à Mina pour y passer la journée. Et cela fait partie de la sunna. Et en cela, il est sur les pas du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, il est recommandé aux pèlerins de se diriger à Mina pour rester là-bas la journée du 8 ainsi que la nuit. Et qu'est-ce qu'il doit faire là-bas? Il doit prier le dhuhr, al-asr, al-maghrib, al-isha, al-fajr, en réduisant les prières de 4 raka'as à 2 raka'as et en ne priant pas les prières nawafil à l'exception de salatul witr que le prophète ne délaissait pas sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, il est légiféré pour le musulman de prononcer la talbiya pendant cette journée, mais aussi à takbir, Allahu Akbar, le dhikr, la demande de pardon, la lecture du Coran. Et avec tout cela, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à préparer son âme, à préparer son cœur, à modifier son état, à se rendre prédisposé à supplier Allah le lendemain dans ce grand jour de Arafat, ce grand jour d'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en faisant cela, c'est comme si tout son cœur s'était fragmenté en morceaux et chacun de ces morceaux s'est éparpillé. Mais en faisant cette préparation le jour de Mina, il réunit tous ces morceaux, il recolle son cœur, il le fait revivre et il attend impatiemment la journée du lendemain. Parlons donc du jour de Arafat. Ce jour-là est l'un des plus grands jours chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et les rites pendant le jour de Arafat sont d'une très grande importance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-Hajju Arafat ». Le pèlerinage, c'est Arafat. Cela ne veut pas dire que le pèlerinage est uniquement Arafat, mais cela montre la grandeur du rôle de Arafat, de la station à Arafat pendant le pèlerinage, à tel point qu'il est un pilier sans lequel nul pèlerinage ne pourrait être valide. Et dans cette grande journée, cette journée de foi, cette journée de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des grandes sagesses. Premièrement, le jour de Arafat est l'un des grands jours d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que un très grand nombre de personnes se réunissent dans un seul et même endroit. Ils ont des langues différentes, des coutumes différentes, des modes de vie différents, des langues différentes. Et peut-être qu'ils ne se comprennent pas lorsqu'ils parlent. Mais avec tout ça, ils ont un Seigneur, une religion, un pèlerinage qui se fait à un endroit pour Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Le jour de Arafat te montre l'importance de l'union des musulmans. Et c'est l'un des objectifs de la station à Arafat pendant le pèlerinage. Tout cela avec la tête découverte pour les hommes. Ils sont là à pleurer, humbles, les cœurs pleinement recueillis, remplis de foi, d'amour, de crainte, d'espoir en Allah Azza wa Jal. Ils craignent qu'Allah n'accepte pas leurs actes à cause de leurs péchés. Ils espèrent qu'Allah accepte leurs actes à cause de sa grande miséricorde. Et ils se rappellent que le jour dernier, certains seront acceptés et d'autres rejetés. L'imam ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, a dit « وَأَمَّا الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ فَذْكُرْ بِمَا تَرَى فِيهِ مِنْ ازْدِحَامِ الْخَلْقِ وَارْتِفَاعِ أَصْوَاتِهِمْ وَاخْتِلَافِ لُغَاتِهِمْ مَوْقِفَ الْقِيَامَةِ وَاجْتِمَاعَ الْأُمَمِ فِي ذَلِكَ الْمَوْطِنِ وَاسْتِشْفَاعَهُمْ » Quant à la station à Arafat, rappelle-toi à travers ce que tu y vois, comme foule immense, comme élévation des voix et diversité des langues, le jour du jugement, lorsque les nations seront rassemblées en un même lieu, cherchant des intercesseurs. Allahu Akbar. Et le jour de Arafat te rappelle Yawm al-Qiyam, le jour de la résurrection. Il te rappelle le jour de la résurrection, plus particulièrement la soirée de Arafat. Car pendant cette soirée-là, il est rapporté dans un hadith que Allah tabaraka wa ta'ala descend au ciel le plus bas de ce bas monde pour vanter les éloges des gens qui sont là à le supplier, à l'invoquer. Il s'adresse aux anges et leur dit « Regardez mes serviteurs qui sont venus ébouriffés, décoiffés, venant de toute contrée éloignée, ils recherchent ma miséricorde. » Puis Allah les prend en témoin qu'il pardonne à ces anges-là. Et Iblis se met à pleurer. Il se dit « toute leur vie, je les ai égarés. En une soirée, tout est parti en fumée parce qu'Allah leur a pardonné. » Allahu Akbar. Le jour de Arafat est une occasion. Je ne vais pas dire en or parce que l'or ne suffit pas pour exprimer la valeur du jour de Arafat. Rien de ce bas monde, de ce bas monde ni de cette dunya ne pourrait suffire pour décrire le ressenti du jour de Arafat. Alors, il faut s'y préparer. Et cela te rappelle le jour dernier. Parce que le jour dernier, personne ne sera préoccupé par le sort d'un autre. Tu ne penseras à personne le jour dernier. Pas même à ton épouse ou ton époux. Pas même à ton père ou ta mère, pas même à tes proches parents, enfants, amis, rien de tout cela. Comme Allah Azza wa Jal a dit, لِكُلِّ مْرِئِنْ يَوْمَ إِذِنْ شَأْنُ يُغْنِي. À chacun ce jour-là, une affaire le préoccupant. Au point où, le jour de Arafat, tu invoques Allah Azza wa Jal, et comme s'il n'y avait personne autour de toi, bien que le nombre de personnes autour de toi soit très grand. Deuxième sagesse du jour de Arafat, c'est qu'il y a une nuance, une différence en réalité, bien que le jour de Arafat te rappelle le jour du jugement dernier, il y a en réalité une différence. Quelle est donc cette différence? Le jour de Arafat, le jour du jugement dernier, pardon, Allah subhanahu wa ta'ala viendra pour établir les balances et juger les gens, le bienfaisant en fonction de sa bienfaisance et le malfaisant en fonction de ses fautes et de ses péchés. Il viendra donc pour juger les gens. Alors que le jour de Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala descend au ciel le plus bas, non pas pour juger les gens, mais pour leur accorder son pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ma min yawmin akthara min an yu'tiq Allahu fihi 'abdan min an-nar min yawmi 'Arafah. Il n'y a pas un jour au cours duquel Allah affranchit le plus grand nombre de serviteurs de l'enfer qui soit comme le jour de 'Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihim al-mala'ika. Et certes, il se rapproche de ses serviteurs et vante leur mérite auprès de ses anges et leur dit: Fayaqul ma arada haula. Il dit à ses anges: Qu'est-ce que cela veulent-ils donc? Subhanallah. Allah sait ce que ces gens sont venus chercher. Mais quand il pose cette question aux anges, c'est pour montrer qu'il s'intéresse à eux. Qu'est-ce que ces gens-là sont venus rechercher? Et lorsque Allah dit ça, c'est pour leur accorder, subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, un des pieux prédécesseurs, a dit: Jitu ila Sufyan al-Thawri ashiyata Arafa. Je suis allé voir Sufyan al-Thawri la soirée de Arafa. Wa huwa jathin ala rukbatayh. Et je l'ai trouvé allongé, ou je l'ai trouvé agenouillé, posé sur ses deux genoux. Wa aynahu tahmulan. Et ses deux yeux inondés de larmes. Il tafata ilay. Sufyan al-Thawri s'est tourné vers moi. Je lui ai alors dit: فَقُلْتُ لَهُ مَنْ أَسْوَأُ هَذَا الْجَمْعِ حَالًا. D'après toi, qui de cette assemblée est le plus triste des gens? قَالَ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لَهُمْ. Il répondit: c'est celui qui pense qu'Allah ne leur pardonnera pas. Allahu Akbar. Sufyan al-Thawri avait alimenté le côté espoir en la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla, au point de dire que celui ici, à Arafa, qui pense qu'Allah ne pardonnera pas à ces gens-là, est le plus malheureux des gens ici. Et il a été rapporté d'après Al-Fudayl que il a regardé le soir de Arafa, les gens en train de faire les invocations. Et il s'est mis à dire: Ara'aytum law anna ha'ula'i ساروا إلى رجل فسألوه دانقا يعني سدس درهم أكان يردهم. Il a dit aux gens: à votre avis, tous ces gens ici, s'ils allaient voir un homme, tous ces gens-là, s'ils se réunissaient pour aller voir un homme et lui demander le sixième d'un dirham, on pourrait dire un peu 15 centimes, le sixième d'un dirham, est-ce que vous pensez que cet homme va refuser? Qalou la, ils répondirent: bah non. Et lui, il répondit: qal wallahi lal maghfiratu inda Allah ahwanu min ijabati rajulin lahum bidaniq. Par Allah, le pardon chez Allah subhanahu wa ta'ala est plus simple à leur donner que l'homme qui donnerait un sixième d'un dirham à tous ces gens-là. Allahu Akbar. Troisième sagesse du jour de Arafa. L'invocation pendant ce jour, car le jour de Arafa fait partie des moments très propices à l'exaucement des invocations. Parce que pendant ce jour, il y a deux proximités avec Allah qui se réunissent, deux proximités entre le Créateur et la créature. Quelles sont donc ces deux proximités? La première, c'est ce dont nous informe le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah descend au ciel le plus bas afin de vanter les mérites auprès de ses anges et de dire de ces gens-là qu'ils sont venus chercher le pardon. Et la deuxième proximité, c'est celle dont il a dit: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Ainsi, si le pèlerin qui invoque Allah le jour de Arafa garde bien cela à l'esprit, qu'il est proche d'Allah Azza wa Jal, et qui Allah est plus proche de lui que tout proche, alors ça sera plus enclin à nourrir en lui l'amour d'Allah. Et ça rendra donc ses invocations plus fortes, son recueillement plus puissant et sa dépendance d'Allah plus intense. L'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, a dit « وَعَمَّا قَلِيلٌ يَقِفُ إِخْوَانُكُمْ بِعَرَفَةٍ فِي ذَلِكَ الْمَوْقِفِ فَهَنِيئًا لِمَنْ رَزَقَهُ يُجَاوِرُونَ إِلَى اللَّهِ بِقُلُوبٍ مُحْتَرِقَةٍ وَدُمُوعٍ مُسْتَبِقَةٍ فكم فيه من خائف أزعجه الخوف وأقلقه ومحب ألهبه الشوق وأحرقه وراج أحسن الظن بوعد الله وصدقه وتائب نصح لله في التوبة وصدقه وهارب لجأ إلى باب الله وطرقه فكم هنالك من مستوجب للنار أنقذه الله وأعتقه ومن أسير للأوزار فكه وأطلقه وحينئذ يطلع عليهم أرحم الرحماء ويباهي بجمعهم أهل السماء ويدنو ثم يقول ما أراد هؤلاء لقد قطعنا عند وصولهم الحرمان وأعطاهم نهاية سؤلهم الرحمن وهو الذي أعطى ومنع ووصل وقطع. الله أكبر. Ibn Rajab a dit, dans peu de temps, vos frères se tiendront à Arafat, dans cette noble station. Félicitations à celui à qui Allah a accordé cette faveur et qui se tient proche de lui, avec un cœur brûlant de ferveur et des larmes débordantes. Combien parmi eux sont effrayés, bouleversés par la crainte, préoccupés, et d'autres encore sont pleins d'amour, consumés et enflammés par le désir ardent de rencontrer leur Seigneur. D'autres encore sont pleins d'espoir, croyant fermement aux promesses d'Allah et en leur véracité. Certains sont des repentis sincères, revenant à Allah avec loyauté et véracité, et d'autres sont des fuyards, venus frapper à la porte d'Allah, lui demandant refuge. Que de gens là-bas étaient voués à l'enfer, mais qu'Allah a sauvés et affranchis. Que d'âmes enchaînées par les péchés qu'il a libérés et délivrés. C'est alors que le plus miséricordieux des miséricordieux les observe et se vante d'eux auprès des habitants du ciel. Il s'approche et dit « Que veulent donc ceux-là ? En vérité, nous avons levé pour eux l'interdiction et le tout miséricordieux leur a accordé au-delà de ce qu'ils espéraient. C'est lui qui donne et qui prive, qui rapproche et qui éloigne. » Fin de citation. Quelle parole bouleversante prononcée par l'imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala dans son livre La Ta'if al-Ma'arif. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, ce noble compagnon, nous dit: kunna ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi ghadati Arafah, fa minna al-mukabbir wa minna al-muhallil. Nous étions en présence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au matin de Arafah. Il y avait parmi nous ceux qui prononçaient le takbir, Allahu Akbar, et il y avait parmi nous ceux qui prononçaient le tahlil, la ilaha illallah. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: khayru du'a du'a yawmi Arafah, la meilleure invocation est celle prononcée le jour de Arafah. Wa khayru ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, et la meilleure parole que j'ai prononcée moi ainsi que les messagers m'ayant précédé, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il faut donc abonder en évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, en imitation au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons qui étaient occupés par le rappel d'Allah, par l'invocation d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plein d'humilité, particulièrement le jour de Arafah. Il suppliait son Seigneur sallallahu alayhi wa sallam. Il a passé la journée entière jusqu'au coucher du soleil sur le dos de sa chamelle sallallahu alayhi wa sallam, à invoquer Allah. Je vous laisse vous imaginer la spiritualité, le degré de recueillement du cœur du prophète alayhi salat wa salam, après avoir prêché à Allah, après avoir appelé les gens à la Mecque, subi les supplices, les dénigrements, on a porté atteinte à son honneur, on a tué de ses compagnons, il a dû abandonner son village natal, la Mecque, pour se rendre à Médine. Il s'est fait accueillir par les Ansar, les compagnons de Médine. Puis là-bas, il a instauré une nation musulmane. Il a appelé les gens à Allah. Il a lutté dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala de par ses biens, physiquement, financièrement. Il a élevé le niveau de la communauté pendant des années. Puis il est allé à la Mecque pour conquérir son village et éradiquer le polythéisme et l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, il est allé accomplir le pèlerinage d'adieu sallallahu alayhi wa sallam. Je vous laisse vous imaginer le recueillement de son cœur après avoir mené cette vie lourde de tâches, sans repos, ni sans aucune pause. Il se tient à Arafat sur le dos de sa chamelle, les deux mains levées au ciel, à supplier son Seigneur, sallallahu alayhi wa sallam, plein de dévotion, manifestant la plus grande des servitudes qui soit, au point où les compagnons ont pensé de lui, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il jeûnait parce qu'ils ne l'ont pas vu manger. C'est alors que Umm al-Fadl ibn al-Abbas, radiyallahu anhum jami'an, est allé lui apporter un récipient de lait. Il l'a pris et il s'est mis à boire afin que les compagnons sachent qu'il n'était pas en état de jeûne. Puis il lui a rendu son récipient. Il a continué ses invocations et il n'a pas baissé ses mains jusqu'au coucher du soleil. Alors qu'il y a des heures et des heures, depuis la prière du dhuhr, du zénith, jusqu'au coucher du soleil, il y a au moins 6 heures. Le prophète a les mains levées au ciel, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est distrait ni par les gens, il n'est occupé ni par la médisance, ni par les péchés, ni par le téléphone, ni par rien de tout ce qui distrait les gens. Et vous allez le voir de vos yeux. Et je vous conseille, d'un conseil sincère, prenez la parole de quelqu'un qui a vu de ses yeux à plusieurs reprises. Ne gâchez pas votre jour de Arafat. Laissez-le entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. Pas de téléphone, pas de discussion futile, pas de médisance, pas de mauvais comportement, pas de cigarette, pas de péché. Concentrez-vous sur votre adoration. Craignez votre Seigneur. Levez les mains au ciel. Ainsi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a baissé qu'une seule main parce que les rênes de la chamelle, ce sont les cordes par lesquelles il tire sa chamelle pour la conduire, la faire avancer, s'arrêter. Il les tenait dans ses deux mains et ses deux mains étaient levées au ciel. Une des deux cordes est tombée. Il l'a ramassée avec une main en laissant l'autre main, en continuant ses invocations. Puis il a levé son autre main et il a continué jusqu'au coucher du soleil. Et après le coucher du soleil, nous passons à la nuit de Al-Muzdalifa, dont nous allons parler de suite, inshallah ta'ala. Vous avez fini votre foi le jour de Arafat. Vous avez fini votre moment intense de recueillement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Votre pèlerinage n'est pas terminé. Vous continuez dans votre cheminement spirituel vers Allah, dans votre voyage de foi, de proximité, de recherche, de proximité avec Allah. Vous continuez. Lorsque le soleil se couche, vous vous en allez en direction de Al-Muzdalifa, tout en proclamant la talbiya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Et vous prononcez également le takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, plein de quiétude. Vous marchez calmement, à tête reposée. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. Puis, quand vous déferlez depuis Arafat, invoquez Allah al-Mash'ar al-Haram. Al-Mash'ar al-Haram, c'est Muzdalifa. Invoquez Allah al-Muzdalifa. Et invoquez-le comme il vous a montré la bonne voie, il vous a guidé. Quoiqu'auparavant, vous étiez du nombre des égarés. Tu te tiens ici, al-Muzdalifa. Après avoir invoqué Allah à Arafat, tu arrives à al-Muzdalifa. Et tu te dis, Subhanallah, Allah m'a guidé, Allah m'a amené jusqu'ici. Et tu te souviens de l'égarement dans lequel tu étais. Et tu fais naître en toi et renforce en toi l'envie de t'améliorer. Tu prends un pacte avec ton Seigneur. Oh Allah, je serai meilleur. Oh Allah, je vais me réformer. Oh Allah, je vais t'aimer davantage. Et je vais faire que tu m'aimes davantage par mes actions qui sont la preuve de l'amour que j'ai pour toi. Oh Allah, je vais te solliciter, je vais te supplier, je vais améliorer ma relation avec toi, je vais arrêter mes péchés. C'est ça le hajj, c'est ça l'âme, le cœur du pèlerinage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la nuit de Muzdalifa, lorsque tu arrives là-bas, une fois arrivé sur place, tu dois, dans la sunna, prier salatu al-maghrib et tout de suite après, salatu al-isha en 2 raka'a. Puis, salat al-witr et tu prends ta couche pour dormir. C'est ça la sunna. La sunna, ce n'est pas les discussions et les blagues. La sunna, c'est le sérieux pendant ton pèlerinage. Beaucoup de gens, malheureusement, parce qu'ils ne se préparent pas justement, il ne profite pas des moments intenses de foi pendant le pèlerinage. Pendant la soirée de Muzdalifa, ils discutent, ils plaisantent entre eux. C'est très grave, c'est une perte de temps. Que dire alors quand il y a de la médisance, du mensonge, du manque de respect de l'un vis-à-vis de l'autre, et j'en passe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam déferlait vers le Muzdalifa. Et en avançant, il disait « Ayyuhan nas, as-sakina as-sakina. Oh les gens, la quiétude, la quiétude. » Il enseigne aux compagnons les rites physiques et les rites spirituels du pèlerinage. Les rites physiques, c'est de se déplacer de Arafat à Al-Muzdalifa. Et les rites spirituels, de le faire avec la quiétude du cœur. Plein de quiétude. Dans le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu arrives là-bas, comme nous l'avons dit, tu pries le maghrib, le isha, le witr, tu prends ta couche, tu t'endors, et si tu n'arrives pas à t'endormir, car ça peut arriver, tu restes calme et allongé, et tu attends. Jusqu'au lever du soleil. Ainsi a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le soleil, lorsque l'aube est arrivée, il s'est levé, il a accompli la prière du subh, du fajr, et il est remonté sur le dos de sa chamelle, al-qaswa, car il a accompli tout le pèlerinage sur le dos de sa chamelle, sallallahu alayhi wa sallam, puis il s'est tenu en direction de la qibla, et il s'est mis à invoquer son Seigneur, à proclamer le takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Et il n'a cessé d'invoquer Allah Azza wa Jal jusqu'à au moment où le soleil devenait jaune, juste avant le lever complet du soleil. Puis il s'en est allé. Il a quitté les lieux. C'est ainsi que Jabir, qu'Allah l'agré, nous a décrit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la soirée de Al-Muzdalifa et aussi le matin. Dans ces actions-là de Al-Muzdalifa, il y a encore une fois des sens profonds, des sagesses énormes. Premièrement, on doit savoir que c'est une obligation de passer la nuit à Al-Muzdalifa. Et quand on dit passer la nuit, c'est-à-dire du moment où tu arrives là-bas jusqu'au Fajr, jusqu'à l'aube. Il est autorisé aux faibles personnes, les personnes malades, les femmes enceintes, et ceux qui les accompagnent, ceux qui accompagnent les faibles personnes parmi les hommes, il leur est autorisé à quitter les lieux après la moitié de la nuit pour se rendre à Mina. Et il faut comprendre que la sagesse de passer la nuit à Al-Muzdalifa, c'est tout simplement appliquer la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Deuxièmement, l'évocation d'Allah, dhikrullah azza wa jal, après la prière du Fajr. Une fois que tu as pris le Fajr al-Muzdalifa, pour ceux qui restent là-bas au Fajr, tu fais tes invocations d'après la prière, tu fais ensuite les invocations du matin, et après tu te mets à invoquer Allah tabaraka wa ta'ala en direction de la Qibla, avec les mains levées, tu prononces le takbir, la ilaha illallah, et tu invoques Allah, tu invoques, tu invoques, tu invoques, tu invoques. Et lorsque le soleil se lève, tu quittes les lieux et tu repars à Mina pour les actions du jour du Eid dont nous allons parler dans un prochain chapitre, Insha'Allah ta'ala. Troisièmement, quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit « فَذْكُرُ اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ » Évoquez donc Allah auprès de l'endroit appelé « al-mash'ar al-haram » c'est-à-dire « al-muzdalifa ». وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ. Et rappelez-vous de lui comme il vous a guidé, alors qu'auparavant, vous étiez du nombre des égarés. Si vous méditez ce verset, vous allez voir qu'Allah a fait la mention du dhikr deux fois. Premièrement, فَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Évoquez Allah lorsque vous êtes au Mash'ar al-Haram, à Muzdalifa. Deuxièmement, وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ et évoquez-le comme il vous a guidé. Il s'agit donc de deux dhikrs qui sont énoncés dans ce verset. L'imam al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, nous explique la nature de ces deux dhikrs en nous disant قَوْلُهُ تَعَالَى وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ قِيل الْأَوَّلْ أَمْرٌ بِالذِّكْرِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ قِيل الْمُرَادُ بِالثَّانِي تعديد النعمة وأمر بشكرها ثم ذكرهم بحال ضلالهم ليظهر قدر الإنعام فقال وإن كنتم من قبله لمن الضالين وما حفظت النعم وزيد في بركتها بأفضل من شكر المنعم جل وعلا عليها. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى نجي au sujet de ce verset justement qu'il s'agit donc de deux dhikr qui sont énoncés. Deux fois la notion de dhikr. Le premier dhikr, c'est le fait d'évoquer le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, al-Muzdalifa. Et le deuxième dhikr sert à se rappeler des bienfaits d'Allah sur nous. Et de se rappeler de l'égarement dans lequel le pèlerin était avant qu'il n'arrive. De se rappeler de tous ses péchés. Comme si Allah te dit, lorsque tu es à Al-Muzdalifa, rappelle-toi ton Seigneur. Et rappelle-toi ta situation dans laquelle tu étais lorsque tu étais égaré. Et il t'a guidé pour t'amener jusqu'ici. Rappelle-toi bien de ce bienfait d'Allah. Souviens-toi bien qu'Allah t'a favorisé, qu'Allah t'a préféré, qu'Allah t'a honoré, qu'Allah t'a élevé. Rappelle-toi de cela, car en te rappelant du bienfait d'Allah, Allah le fera perdurer en toi, car aucun bienfait n'a été protégé, aucune bénédiction n'a été augmentée, si ce n'est par le biais de la reconnaissance à Allah, subhanahu wa ta'ala, pour son énorme bienfait envers ses serviteurs. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Je m'arrête ici pour aujourd'hui et vous donne rendez-vous demain à la même heure pour continuer ce voyage incroyable et magnifique du pèlerinage, en espérant d'Allah subhanahu wa ta'ala que par ses mots, il me pardonne mes nombreux péchés et il nous aide tous dans son cheminement, notre cheminement vers lui. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم